Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Laurent Bell et Frédéric Barbe, Captain Frog, alias Captain Frog. Je vous laisse vous présenter peut-être, et après on rentre dans le vif du sujet.
Donc, Captain Frog, pour vous servir. Voilà, artiste polygraphe, chanteur, performeur. Voilà, avec une double identité. Donc, je m'appelle parfois Frédéric Barbe aussi.
Ah oui, c'est vous aussi. D'accord, c'est le même.
Oui.
D'accord.
Et c'est un grand avantage d'avoir, comme ça, divers facettes pour évoluer dans cette société un peu complexe.
Pour l'intermittence, notamment. Bon, bref.
Pour la bonne vie sur Terre.
Pour la bonne vie sur Terre, oui.
Donc, Laurent Bell, comme l'envie Bell sur, pour le nom de scène ou nom d'artiste. Et je fais de la musique, je compose et je réalise artistiquement des projets musicaux, notamment.
Alors, on vient d'écouter tout au long de la semaine Les Fleurs du Mali de Charles Baudelaire, qui est une mini-série de lecture poème radio. Je vous laisse nous expliquer dans quel cadre ça t'est produit, réalisé, fabriqué, conçu.
Alors, c'est une mini-série de 4 épisodes pour la radio et des podcasts, parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit « Vous ne prononcez pas le mot de podcast, mais c'est bizarre. » Donc c'est aussi
c'est
un
chose
podcast.
Faite.
Voilà. Chose faite, voilà, ça y est, on le sait.
Mais c'est aussi en fait un passage d'un concert lecture spectacle vivant vers la radio. Et dans ce sens-là, c'est aussi un pilote d'un projet plus vaste de mini-série qui s'appelle Travel Poem for the Radio, qui est l'idée voilà, de générer des formes entre spectacle vivant et radio, d'avoir des passages comme ça, de l'un à l'autre. Quelquefois, c'est un concert lecture qui devient de la radio, de la création radiophonique, et peut-être que sur certains projets, ça sera de la création radiophonique en premier, qui se transformera en spectacle vivant. Entre guillemets, puisque la radio, c'est très vivant. Hein. Je ne suis pas là, bien sûr, pour émettre des jugements de valeur sur la radio, qui est une de mes passions depuis que je suis tout petit.
Souterraine.
Voilà. J'écoutais France Inter dans mon lit pour m'endormir dans... voilà, bien avant que vous ne soyez nés.
Et Laurent ?
Par rapport à la production, par rapport à... Oui, bah c'est effectivement on a joué je sais pas combien de fois Les Fleurs du Mali en live.
Une vingtaine de fois peut-être.
Peut-être une vingtaine de fois. Et c'est finalement la forme radiophonique, c'est la première fois qu'on fige entre guillemets cette création dans le marbre. Et c'est ce qui lui donne aussi ce côté assez direct et assez assumé, parce qu'on a déjà beaucoup improvisé, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus simple d'aller l'enregistrer, d'assumer cette forme, ouais. C'est mais bon, voilà, ça fait partie de cette création effectivement qui va devenir un pilote pour d'autres projets apparemment de quoi de
start-up.
Start-up. Bon, ça on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, mais
oui, moi je rajouterais bien qu'il y a une dimension d'archive et l'archive vivante bien sûr. Du coup, elle est sur une radio, mais l'idée d'archive, c'est à la fois effectivement à un moment donné peut-être figer un projet ou l'arrêter ou lui donner enfin une autre forme, mais voilà, le mot archive, je le trouve très très intéressant. La radio me paraît un des outils de l'archivage assez fondamental.
Et puis c'est aussi rendre hommage au projet, parce que finalement quand on ça fait 3, 4, je sais pas combien d'années exactement, ça.
Oh là là.
Voilà. On va même pas compter.
En fait, moi, je peux dire que ce texte, il a été écrit juste avant le coup d'état militaire.
Ah oui, c'est quelle année?
Du début des années 2010. Au Mali. Voilà. À tel point que certaines personnes ont cru que j'avais quitté le Mali juste avant le coup d'état militaire après l'avoir organisé.
Bien sûr.
Mais non, c'était faux. C'était faux. Oui, une petite dizaine d'années, en fait, hein, ouais, de représentation à raison de une ou deux sessions par an dans des contextes assez différents, voilà, avec beaucoup de musiciens au départ et puis une forme à deux petit à petit.
C'est ça, ouais. Et du coup, moi, je parlais d'hommage, c'est aussi rendre hommage à ce texte. Tout d'un coup, voilà, on l'enregistre, il a une forme, il est écoutable, il y a du son, c'est dans une radio, c'est super en fait de pouvoir avoir cette forme-là. Parce que le live, c'est bien, mais finalement, ça s'échappe aussi. Et là, on avait quelque chose qui méritait d'être, d'être enregistré et entre guillemets, figé.
Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein, je ne sais pas si on doit donner son avis, mais j'ai adoré écouter ce premier format, enfin, ces quatre sons, cette matière sonore, du coup. Et moi, je voulais savoir comment, parce que je suis un peu curieux, comment on part justement d'un texte qui a été écrit il y a 12 ans, qui, j'imagine, est plutôt sauvegardé, enfin, qui est un peu le même texte que l'origine. À cette matière sonore, du coup, votre collaboration, elle s'effectue comment ? Il y a des allers-retours, vous complétez, ou c'est le fait d'avoir fait des lives qui ont modifié cette production ?
J'aime bien la fin. Effectivement, il y a le fait qu'il y a ces 10 ans de live qui permettent d'avoir une vraie confiance dans la création. On se fait confiance, on se connaît. Et du coup, c'est très facile de créer à un moment donné quelque chose qui a cette forme. Même si, en vérité, on a beaucoup improvisé aussi là, encore. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais...
Improvisation ou semi-improvisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un texte qui est quand même toujours le même depuis le début, mais qui est réinterprété à chaque fois dans une grande liberté formelle, en tout cas, que le texte peut être transformé, il peut être étendu, raccourci, joué de manière différente, laisser le dialogue avec la guitare ou les percus autres se déployer différemment à chaque fois. Donc c'est toujours le même texte, il est toujours différent, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Là forcément, ben voilà, c'est fixé. C'est fixé voilà, dans des conditions d'enregistrement studio, avec un matériel plutôt voilà, analogique, qui donne cette dimension organique aussi à l'ensemble de la matière sonore. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un plus aussi, parce qu'on l'a joué des fois dans des conditions difficiles.
Ça va avec l'hommage, en fait.
Techniquement, on l'a joué en plein air, on l'a joué dans des lieux où on n'était pas forcément très accompagné techniquement. Quelques souvenirs burlesques. Mais voilà, là, du coup, tout à coup, on a beaucoup de possibilités d'être dans la subtilité sonore. Et je crois que c'est un grand plaisir aussi.
Sur la partie composition, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un gimmick. Les Fleurs du Mali, pour ceux qui, quand vous aurez entendu, effectivement, vous saurez effectivement qu'il y a ce gimmick. C'est la seule chose, finalement, certaine qu'on a gardée depuis 10 ans. Si on réfléchit bien. Tout le reste, ça a fluctué.
Ok.
Voilà.
Comme un fil conducteur.
Exactement.
Et du coup, ça, c'est pour votre production à vous, mais du coup, dans la réception du coup, de ce que vous allez ce que vous venez de produire, comme on est quand même sur un sujet qui mélange art et politique, qui est de l'ordre de l'enquête aussi un petit peu, mais qui est, dont le format serait plus accessible finalement à plus de gens, il y a aussi des extraits sonores qu'on a des moi, j'essaye de pas, comment, comme quand on parle d'un film sans parler
spoiler.
Du film. Voilà. Il y a un retour à la réalité aussi, du coup. Ça, vous le... Comment dire, vous le... dans cette idée d'archives vivantes aussi, il y a cette idée de... Peut-être de se dire que ça va débouler sur... Enfin, se décliner en concert ou en débat ou des choses qui vont... Vous allez être attentif à la réception de cette production.
Moi, j'y suis non seulement attentif, mais... On est aussi sur le fil, hein. C'est du coup un auteur français qui écrit sur le Mali à partir de quand même peu de temps passé au Mali et forcément, enfin forcément, en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de Maliens qui parlent le français, il y a quand même peu de Français qui parlent les langues maliennes, voilà, donc une sorte d'inégalité de position linguistique. C'est pour ça aussi que je suis mis en fragilité aussi, notamment dans les débuts des quatre épisodes, hein, où je parle en bamanankan, en bambara.
Tout à fait.
Hein, je ne parle pas bambara. Enfin voilà, moi j'avais appris, on va dire, voilà, tout ce qui est ces formules de salutation, et puis essayer de. Ouais, j'ai pris quelques cours avec des amis, etc. Mais j'ai pas eu cette temporalité et cet investissement qui fait que. On est aussi dans la langue de l'autre, vraiment. Et je crois que c'était important de se mettre dans une position aussi d'un locuteur français qui parle très mal, en fait, la langue de l'autre et qui l'assume et qui dit, voilà, en fait, c'est ça l'état de la question linguistique. Il y a une inégalité. Voilà, et puis après, forcément, en tant que français, voilà, on est porteur d'une histoire croisée. Hein. Il y a la France-Afrique, il y a le Mali-France aussi. Enfin, il y a tout un tas de manières de raconter ce qui s'est passé depuis 150 ans dans cet échange entre deux territoires, deux populations. Bon, ce matin, avant de venir, parce que je me suis réveillé un petit peu tôt, j'ai quand même relu la fiche Wikipédia du Mali et... D'une part, et d'une grande pauvreté, quand même, hein, faut dire ça, par rapport à la réalité de ce qu'est ce pays. Et puis, bon, l'officier français à qui on attribue, disons, la conquête coloniale de ce qu'on appelait le Soudan, qui est devenu le Mali plus tard, voilà, et qui est très euphémistique aussi. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la conquête coloniale du Soudan, futur Mali... c'est un ensemble de crimes de guerre, en fait, voilà, qui n'est pas vraiment reconnu comme tel. Et c'est aussi une politique de la race, hein, de vraiment de jouer les groupes ethniques en les séparant encore plus qu'ils n'étaient. Hein, voilà, toute cette histoire-là, elle est peu connue. Le travail forcé, ce qu'on appelait les soldats du deuxième contingent, les gens qui ont été déplacés, par exemple, dans le delta du Niger pour fabriquer des barrages, etc. Enfin. Pour le plan coton, le plan arachide. Enfin, du coup, il y a cette histoire-là aussi que nous, on a sous le boisseau, en fait. Elle n'est pas connue en France, et c'est quand même pas mal. Et au Mali, elle n'est pas toujours bien connue non plus. Ou en tout cas, par des histoires familiales, et pas par une histoire qui est passée par, entre guillemets, les sciences sociales et la politique. Voilà, ça, c'est un contexte de longue durée. Et puis, ben, le texte, il est écrit en 2011, voilà, 2012, et... Eh ben, 10 ans plus tard, la situation elle s'est radicalement transformée, que ça a été l'occupation islamiste au nord, que ça a été aujourd'hui, on va dire, une forme de guerre civile, pas généralisée, mais enfin, qui a des conséquences vraiment mortifères dans plein d'endroits du Mali. Les interventions militaires françaises répétées... les coups d'État, les différents coups d'État, toujours, voilà, sauf les derniers, hein, où la France perd un peu la main, et du coup, tout d'un coup, on s'énerve, et on reconnaît plus le gouvernement militaire, mais en fait, on l'a fait pendant 20 ans. Enfin, voilà, toute cette actualité-là, et puis voilà, on se trouve avec des mercenaires russes qui font un travail militaire encore plus sauvage que ce que a pu faire l'armée française. Donc tout ça est très compliqué, et en tant que Français, il faut avoir quand même beaucoup d'humilité par rapport à ça, c'est de se mettre à la place des gens qui sont là-bas. Et en tout cas, j'espère que les fleurs du Mali, c'est quelque chose qui contribue en fait à créer la possibilité qu'on parle en fait de ce qu'est le Mali aujourd'hui, dans toutes ses difficultés et toutes ses qualités. Et qui est par exemple un grand pays exportateur de musique. Et c'est pas rien, vers l'Europe, vers l'Amérique. Voilà, et par rapport à ce son organique, et je terminerai là-dessus, mais quand j'étais à Bamako, j'ai vu par exemple, Tikun Jafakoli faire du playback pour l'équivalent de France 3, Bamako. C'est quand même très très drôle. Aussi dans l'ordinaire, en fait, de oui. Voir quelqu'un, voilà, qui passe dans des zéniths, etc., qui fait un playback avec une danseuse, et il y a 50 personnes, et on est en plein air, et il y a cette pauvreté matérielle aussi de l'économie de la musique sur place, et en même temps, toute une richesse, et je me souviens en particulier de vraiment de musique mandingue, plus classique, mais... à l'école des Beaux-Arts là, de Bamako, qui est une école née de l'indépendance. Hein, et là, en fait, c'est la musique mandingue, mais en fait, c'est comme si j'avais les Pixies, en fait, qui font la musique mandingue. Et je crois que le chanteur, il est bourré, en plus, ah oui. À ce moment-là. Et en fait, là, il y a une matière organique, il y a un son incroyable, et je trouve que, notamment sur cette partie de guitare, Laurent, il a... Voilà, il était dans cette dimension-là aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à cet instant où on est. C'est-à-dire, bien sûr, c'est une musique mandingue assez, assez classique, mais qui a été hybridée aussi avec des guitares électriques, etc. Et qu'en fait, on a là un truc assez extraordinaire, voilà, qui est un de mes grands souvenirs musicaux au Mali. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi les musiques trad ou dites trad pour les mariages, etc. Mmh. On en a mis quelques extraits aussi. Et voilà, ils ont aussi inspiré quand même voilà, les formes de la modernité musicale.
Et Laurent, du coup, sur la partie justement habillage sonore, et tout à l'heure hors antenne, on parlait un peu d'improvisation ou de se lâcher un petit peu. Du coup, on ressent un petit peu, je trouve, cette partie en fait, qui navigue entre maîtrise et puis lâcher prise un petit peu.
Complètement. Je voulais juste revenir sur la dimension plus ou moins politique et autre de l'œuvre. Et en même temps, préciser aussi que je ne suis pas malien, mais d'origine togolaise. Et bien souvent, quand j'écoute les fleurs du Mali, ça pourrait être les fleurs du Togo.
Ouais.
Et ça, c'est ce qui me touche aussi dans le sens, et ça va nourrir la création, c'est que on retrouve vraiment le côté embrassé de l'Afrique, là en tout cas subsaharienne qu'on connaît, entre c'est toute la problématique politique, la vie des gens, la vie, la géographie, et c'est ça qui est embrassé dans les fleurs du Mali, et c'est ce qui permet aussi d'aller vers une musique qui n'a pas besoin de se traditionnaliser en permanence, qui a pas besoin de s'officialiser.
Mmh.
Elle peut rester dans la richesse de la vie sur place, parce que quand on est dans un pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas le Mali ou bien en tout cas le Togo que je connais, on a vraiment ça. Il y a autant la radio avec les informations politiques que la musique à fond à côté, que peut-être la musique traditionnelle, que la vie des gens. Tout ça est vraiment mélangé, et dans le son il y a cet organisme vraiment très fort, très très fort.
Bah, du coup, je me suis fait un peu cette remarque-là en écoutant les quatre extraits, enfin les quatre morceaux, d'un flash info qu'on pourrait avoir tous les jours.
Exactement.
Mais qui aurait un format artistique, audio,
long, ouais.
Long avec des parties de voix qui sont plutôt universelles, qui pourraient être lues par n'importe qui. Et puis des fois, une manière d'haranguer la foule un petit peu. Enfin, je ne sais pas si tu as un avenir pour haranguer la foule.
Pas forcément, mais je pense au Mali, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, je pense... Il y a quand même une contrainte politique qui s'exerce sur les gens, qui explique peut-être aussi les chanteurs engagés, chanteuses engagées au Mali, tout ça, peut-être c'est un concept qui n'existe pas vraiment. Mais en même temps, la parole est très libre dans les contextes amicaux, informels, etc. Et par exemple, l'histoire de la corruption au Mali, en fait, tout se sait, tout le monde le sait, les gens le parlent. Et pourtant, ça ne se transforme pas vraiment en parole politique au sens de mécanisme politique, de régulation, ou difficilement. Moi, comme j'étais en enquête aussi, au moment où j'ai fait ce travail, en enquête sciences sociales, hein, sur des questions de lecture-écriture et de langue, justement... j'ai fait des petits à côté, j'ai rencontré l'équivalent du directeur du parquet national financier français au Mali, qui s'appelle le vérificateur. Voilà, et le vérificateur, il en sait un peu plus, mais à peine plus que la plupart des gens qui discutent, en fait, et qui savent que partout, voilà, les choses se passent d'une manière qui n'est pas la manière officielle. Et je pense aussi aux questions que, quand un homme politique... surtout des hommes, au Mali, prend la parole, quand il parle en français, quand il parle en Bambara ou d'autres, ce n'est pas exactement la même chose qu'il dit. Alors ça, c'est pas propre au Mali, hein. On va dire dans tous les pays multilingues, il y a vraiment cette question-là aussi. Hein. Du coup, c'est aussi de donner une résonance à cette parole un peu empêchée, un peu ambiguë, et en même temps qui est toujours là, où les gens ont de la parole constamment, ça c'est sûr, et les femmes bien sûr. Et les femmes maliennes, c'est pas les dernières à envoyer des scuds
et des
pics, voilà. Et pourtant, c'est pas forcément une parole publique, voilà. Pour autant, c'est une parole qui s'exprime assez abondamment.
Laurent, tu veux commenter ? Non.
Non, c'est très bien dit tout ça. C'est l'oralité est très très forte effectivement en Afrique. Et là, on retrouve. Je me souviens d'un concert qu'on avait fait ensemble où une personne que je connaissais effectivement qui est venue à la fin dire waouh, c'est vraiment, je me suis vraiment retrouvé au Mali. Et ce qui est drôle, c'est que pour le coup, il disait cela par rapport au contexte justement d'aller un peu dans tous les sens et en même temps cette force, cette vigueur dans l'oralité, dans toutes ces nuances. Qui lui rappelait vraiment ce qu'il avait entendu là-bas, dans les impressions, dans le son, dans l'énergie.
Mm.
Donc oui, ça, l'oralité et ces multiplicités est vraiment très très fortement présente et ça ressemble bien à ça. Ouais.
Dernière question. Oui,
vas-y. Je peux dire une bêtise encore ?
Oui, tu as le droit à deux bêtises.
C'est à propos déjà... de la francophonie, parce qu'on ne l'a pas prononcé ce mot encore.
Oui, tout à fait. Le phonie du son.
Du coup, moi, ces voyages au Mali, c'est vraiment aussi renommer ce qu'était la francophonie dans ce qu'elle a de très qualitatif, c'est-à-dire d'avoir finalement développé des tas de variantes dialectales du français. Et le français que nous utilisons actuellement est une variante dialectale, en fait. Herbinoise, peut-être.
Peut-être herbinoise, ouais.
Ouais. Mais en tout cas, nous ne sommes pas le standard. Enfin, si nous le pensons, nous pouvons le penser, mais je pense que c'est une pensée plutôt négative. Donc il y a des nombreuses variantes dialectales du français. Il y en a, j'allais dire, au Mali même, sans doute plusieurs. C'est pas simplement des accents, c'est aussi du vocabulaire spécifique. Des tournures, un peu comme le français des bretonnants qui était affecté par la syntaxe bretonne, c'est pareil en français de la part de gens qui parlent bambara ou sanraï, etc. Voilà, donc il y a aussi cette qualité linguistique qu'il faut éprouver, que c'est une belle langue en fait, le français du Mali. Mais la francophonie, c'est aussi tout un tas de trucs un peu bizarre, un peu chelou. Moi, j'avais travaillé sur les questions d'édition, hein, et justement que au Mali, il y a une très grande difficulté à produire des livres en langue nationale, et peut-être les livres qui intéresseraient les gens au Mali, les lectrices, les lecteurs, et que du coup, là, la francophonie, elle n'est pas un endroit très, très bienveillant, hein, si la francophonie, c'est la promotion du français, je crois que c'est pas très intéressant, en fait, comme posture. Voilà, donc c'était montrer la francophonie sous son jour réel, c'est-à-dire ses ambivalences. Et aussi que, au Mali, ne pas parler français, c'est un handicap social. Et comme il est genré, il y a beaucoup plus de femmes aussi, c'est quelque chose qui évolue tout doucement, mais par exemple, aujourd'hui, on peut plaider des divorces en langue nationale, en bambara, mais il y a 10 ou 15 ans, c'était plaider en français, et beaucoup de femmes, en fait, parlaient pas de français. Mmh. Et donc, du coup, voilà, leur divorce, il était prononcé sans qu'elles participent en conscience aux procédures. Ben voilà, pour dire, la francophonie, c'est une matière à enquête, hein, pour revenir sur la question de l'enquête. Voilà.
Dernière question, avant qu'on... puisse parler hors antenne d'autres choses. Du coup, on est dans le cadre d'une semaine où on pose un regard critique sur la question des sciences et du média radio. Du coup, comment, via l'univers radiophonique, en fait, on fait intervenir ou non des scientifiques et des chercheurs. Et du coup, le parallèle un petit peu avec votre travail, c'est comment finalement un travail plutôt de recherche il y a 10 ans, qui était un texte, du coup, s'est transformé et s'est a pris cette forme-là, du coup, sonore. Et comment ça a fait aussi, via cette écriture un peu performative, une transformation de vos pratiques, finalement, individuelles. Donc, je donne un peu la réponse à la question, mais c'était savoir, comme dernière question, comment ça va évoluer, du coup, après coup, après cette diffusion-là, comment est-ce que vous allez reprendre la route, refaire des concerts, réécrire, inviter d'autres musiciens? Ou vous n'avez pas de planning encore?
Pas de planning.
Start-up, non.
Laurent, tu veux pas parler de tes idées de label aussi? Peut-être c'est le moment où les financeurs nous écoutent.
Levée de fonds, etc. Tu veux maintenant? Non, il y a beaucoup d'inconnus pour la suite. Simplement, il y a des envies, des inspirations, et effectivement, la notion de le son reprend des couleurs ces derniers temps. On parlait des podcasts, on parlait de... Voilà, donc il y a une envie, c'est vrai, de reproposer des formes qui soient peut-être un peu comme celle-ci, semi-improvisée, assez spontanée, organique pour le coup. Et il y a cette idée qui est là. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'il y aura un label? Est-ce qu'il va y avoir... Mais c'est possible. C'est possible. Parce que c'est les formes longues, ou on va dire par série, ça finalement s'écoute bien. Et je me rends compte aussi autour de moi qu'il y a les gens saisissent ça avec beaucoup plus de facilité qu'on aurait pu l'imaginer. Je sais pas ce que t'en penses, Fred, mais ou même vous, parce que dans le contexte.
Vraiment.
Et ça, c'est chouette. Donc il y a l'idée quand même de peut-être aller vers des propositions partagées Et pourquoi pas professionnaliser la chose, oui.
Je confirme qu'il y a, il y a vraiment un champ de, d'expérimentation.
Tout à fait. Eh bien, merci Laurent Bell et
Merci
Pog.
Beaucoup.
Merci
alors,
à vous.
On se retrouve à une prochaine... Non, ça sert à rien de dire une date de concert, parce que si ça passe plus tard et qu'on annonce une date et que la date est...
Alors, si on peut peut-être annoncer merci quand même un désir de concert radiodiffusé. Voilà, qui
tout
est
tout
aussi une forme... elle n'a pas disparu, elle existe dans, dans différentes radios et que c'est une belle forme aussi. Avec cette idée que, notamment en radio dite locale, je ne sais pas si vous utilisez toujours ce terme.
De radio ou de local?
Local. C'est toujours surprenant aussi d'avoir les retours d'auditeurs et d'auditrices, souvent inattendus. Ah, en fait, on t'a entendu.
Ouais.
Et de se dire, ah, mais t'écoutes Jet FM. Et le public, il existe aussi. Et bien sûr, il échappe en partie... à toutes ces histoires de documenter l'audience avec les machins, les panels et autres, pour dire que voilà, c'est important que des radios toutes échelles géographiques existent et qu'elles ont leur public et qu'elles existent sur la durée. Du coup, s'y inscrire en tant qu'artiste aussi, c'est très chouette aussi. Voilà, ça fait partie d'un compagnonnage qui je trouve très fructueux.
Donc on se retrouve à l'automne pour un micro-concert ou une session avec le lancement du label.
C'est ça, voilà. C'est exact.
Absolument.
Voilà. Merci d'envoyer vos fonds.
Merci à vous.
Au revoir.
Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de Jet.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter tout d'abord le quatrième et dernier épisode des Fleurs du Mali de Captain Frog et Laurent Comelin-Vibel. Ensuite, vous avez pu écouter une interview par Julien Bélanger, des deux créateurs des Fleurs du Mali. À suivre dans l'immédiat, la chronique Plus chaud que le climat. Tout de suite après, vous pourrez écouter Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet.